BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors c'est une émission spéciale que nous vous proposons cette semaine depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence organisées par le Cercle des économistes. Alors évidemment, viennent ici beaucoup de grands patrons, d'économistes, d'experts, de responsables politiques, de cabinets de conseil, et ils sont plusieurs à publier livres, rapports. Ils sont aujourd'hui avec nous dans la librairie de l'écho avec un fil rouge. Nous allons explorer les pistes de redressement de la France, de l'Europe, et vous allez voir qu'elles sont bien plus nombreuses qu'on le croit, et c'est de bon augure à la veille d'une année présidentielle dans laquelle les propositions vont se multiplier, pas toujours les plus rationnelles, pas toujours les plus pertinentes. Et donc vous allez voir, si on met bout à bout toutes les propositions qui vont être faites dans cette émission, eh bien on tient quand même beaucoup d'éléments d'optimisme pour les mois et les années à venir. Notre premier panel, donc, que nous allons faire parler, comment le monde va-t-il évoluer au fil du 21e siècle, à quel futur doit-on se préparer, et puis comment l'Europe peut-elle combler son retard technologique sur la Chine et les États-Unis, avec quels atouts. Nos deux premiers invités vont répondre à ces questions. Clarisse Magnien, bonjour.
Bonjour.
Clarisse, vous êtes directrice associée du McKinsey Global Institute qui publie, alors, plusieurs rapports très riches. Il y en a un notamment sur lequel on va s'attarder. Ça s'appelle The Race Takes Off in the Next Big Arenas of Competition. Allez, si j'essaye de traduire, la course s'accélère sur les prochains terrains de compétition et de concurrence. Et puis Jean-Éric Aubert, bonjour. Vous êtes spécialiste de l'innovation. Vous présidez la Fondation 2100 qui publie cet ouvrage collectif Scénario pour le 21e siècle chez Hermann. On commence avec vous, Jean-Éric Aubert. Comment est-ce qu'on voyait le 21e siècle au 20e siècle ?
Ah, c'est une très, très intéressante question. En fait, il n'y avait pas énormément de documents, je dirais, très, très, très fondés qui exploraient les possibilités du 21e siècle. Si on essaye d'aller très vite, il y avait manifestement ce rapport sur les limites qu'on a bien connu au début des années 70, ce fameux rapport Meadows, qui montrait qu'on ne pouvait pas avoir une croissance infinie du fait de la limitation des ressources sur la Terre. Il y a eu un rapport très important qui a été publié en 1990 par le ministère de la Recherche en France, avec un travail de plus de 600 experts pendant plusieurs années, qui évoquait précisément, et ça s'appelait Récit du prochain siècle, 2100 Récit du prochain siècle, qui prévoyait une crise majeure autour des années 2020-2030. Due en fait à une désorganisation économique, des fracturations politiques, un épuisement des ressources et par effet systémique, une série de problèmes qui débouchaient à ce moment-là sur la construction au niveau mondial d'une société beaucoup plus qui se rééduquait, et ça allait prendre les années 2030-2060 pour, à partir des années, la deuxième moitié du 21e siècle, ouais, déboucher sur une société beaucoup plus créative.
Pas si mal vu en fait.
Pas si mal vu. Le point peut-être qui était pas trop examiné, c'était les implications du changement climatique, qui était vu, ouais, comme quelque chose à laquelle on pouvait s'adapter relativement facilement. C'est peut-être le point sur lequel il y a eu un peu trop d'optimisme. Il n'y avait pas non plus les confrontations géopolitiques. À l'époque, on sortait juste, après la chute du mur de Berlin, dans une période assez, je dirais, optimiste. Et peut-être les confrontations géopolitiques auxquelles aujourd'hui qui se profilent n'étaient peut-être pas perçues avec autant de force.
Alors, vous dites qu'il y a trois tendances, évidemment, qui vont structurer les décennies à venir. Il y a la démographie. Et on se dit, après tout, c'est peut-être pas les tendances les plus difficiles à prévoir. Il y a le climat. Là aussi, bon, on a quand même un peu plus de connaissances sur ce qui nous attend. Et puis, il y a l'innovation. Et là, on se dit, c'est peut-être là où les incertitudes sont les plus grandes, finalement.
Oui, vous avez raison. Bon, ce qui est certain, c'est que le climat, la démographie sont vraiment des tendances lourdes, dont on voit à peu près l'ampleur mais qui va quand même dépendre notamment du climat, si on fait ou pas d'un certain nombre d'efforts massifs, par exemple d'atténuation. Sur la démographie, il y a les déséquilibres nord-sud qui vont être quand même un problème majeur, notamment dans la deuxième moitié du siècle. Et puis, il y a la technologie. Alors, la technologie, on est à peu près sûr qu'il va y avoir une série de vagues d'une très grande importance qui vont déferler sur les sociétés dans les décennies à venir. Alors, la question, c'est effectivement comment on va s'adapter à cela, mais c'est certainement un facteur majeur. Et puis, il y a un autre facteur majeur qui constitue un élément véritable d'incertitude, c'est la géopolitique mondiale.
Ouais.
C'est-à-dire vers quel type de monde on se dirige. Est-ce que c'est un monde fragmenté? Est-ce que c'est un monde conflictuel? Est-ce que c'est un monde qui, parce qu'il sera face à des problèmes peut-être gigantesques, sera plus coopératif, etc.
Alors, vous élaborez 6 scénarios pour le 21e siècle. En gros, il y en a 3 qui sont plutôt optimistes, 3 qui sont plutôt pessimistes. Et d'abord, vous insistez sur un point pour dire, mais attention, ces scénarios, c'est pas qu'un exercice intellectuel. Ces scénarios, ils sont importants, c'est des scénarios de travail, notamment pour les entreprises, parce que, en fait, on va sans doute, dans plusieurs domaines, franchir des seuils d'irréversibilité qui vont nous poser des problèmes nouveaux.
Tout à fait. Vous avez mis le doigt sur un point essentiel qui est, dans le domaine climatique, on est bien conscient de ces irréversibilités. C'est-à-dire que si on n'est pas si on n'a pas fait les efforts suffisants dans le domaine de l'atténuation, qu'on n'a pas fait aussi dans le domaine de l'adaptation, assez rapidement, dans les décennies qui viennent, les efforts nécessaires, le monde va devenir difficile à vivre.
Alors, est-ce qu'on peut détailler vos 3 scénarios optimistes, 3 scénarios optimistes, c'est quoi les bases de ces scénarios? Et puis j'ai envie de vous demander forcément quel degré de probabilité vous attribuez à chacun.
Bah écoutez, disons qu'il y a, ces 6 scénarios en fait peuvent être résumés plutôt à 4 conduites fondamentales, qui sont celles que finalement, qu'on soit un individu ou qu'on soit l'humanité tout entière, c'est l'hypothèse qu'on a prise dans notre étude, si on a pris l'humanité tout entière, comme si elle se comportait comme un seul individu. Alors, quand vous êtes devant vraiment une situation nouvelle, pour vous, vous avez 4 attitudes possibles. La première, c'est de dire, je vais faire ce que je fais de mieux en mieux en étant très proactif. C'est tout ce qui est de l'ordre aujourd'hui de ce qu'on appelle le technosolutionnisme. Et l'idée, c'est que en utilisant de manière forte, intelligente et de manière aussi éthique la technologie, on peut déboucher sur un certain nombre de solutions aux problèmes que l'humanité va rencontrer en terminant aussi dans une perspective humaniste. Ça, c'est, je dirais, le scénario optimiste proactif. On peut avoir une attitude, au contraire, de dire « moi, je vais transformer ma vie, je vais transformer mon existence ». Et je change de modèle de consommation, modèle de production, plus de sobriété, plus de subsidiarité, plus de redistribution au niveau mondial. Ça, c'est un deuxième type de scénario que nous avons, nous, appelé le scénario du symbiocène, qui remplace l'anthropocène, et dans lequel il y a une nouvelle harmonie entre l'homme et la planète et la nature. Le troisième scénario de base, c'est celui, par contre, dans lequel on rentre dans un monde conflictuel, dans lequel les blocs s'organisent, éventuellement s'arment les uns contre les autres, y compris sur le plan commercial, militaire, etc. Et sans nécessairement déboucher sur une guerre mondiale, mais à ce moment-là, c'est véritablement un scénario d'affrontement qui, en même temps, ne permet pas de résoudre des problèmes fondamentaux auxquels on est confronté, qu'il s'agisse des questions climatiques, qu'il s'agisse éventuellement des effets dévastateurs de la technologie ou des problèmes démographiques. Et le quatrième scénario, c'est celui où on est non pas dans le repli comme précédemment, mais dans une espèce d'inertie, de procrastination. Et si elle se prolonge loin dans le siècle, dans la deuxième partie du 21e siècle, alors là, on est à peu près sûr que vont s'effondrer autour de la planète un certain nombre de zones qui à ce moment-là, sur le plan économique, politique, seront devenus inhabitables et dans un monde chaotique. Ça, c'est le scénario de l'inertie. Ça, c'est, je dirais, les 4 fondamentaux.
Pour terminer, Jean-Éric Aubert, la probabilité que ça se passe bien?
La probabilité que ça se passe bien, ça dépend fondamentalement de ce que vont faire les sociétés dans les 2 à 3 décennies qui viennent.
Mais votre feeling?
C'est le problème de l'irréversibilité. C'est-à-dire, si on fait ce qu'il faut sur le plan du climat, sur le plan de la technologie...
Est-ce que vous pensez qu'on va le faire ?
Je pense que, probablement, il faut que la morsure du réel soit encore plus grande qu'aujourd'hui elle n'est.
Donc,
mais,
il va falloir...
Mais il y a un rebond, à mon avis, qui se fera, probablement, plus la morsure sera forte, plus les sociétés éprouveront le besoin de s'adapter.
Donc,
et moi, je suis, de ce point de vue-là, optimiste à moyen terme.
Donc, il va falloir que ça aille un peu plus mal avant qu'on puisse espérer que ça aille mieux.
C'est comme ça que je verrai les choses, mais ça n'engage que moi-même.
Alors, Clarisse Magnin, McKinsey Global Institute, bon, vous, votre spécialité, c'est l'efficacité. Et dans les rapports que vous publiez, vous en publiez plusieurs, hein, massifs, sur effectivement les tendances du futur, vous soulignez un point majeur. La croissance mondiale, la compétition mondiale vont se jouer grosso modo sur la petite vingtaine de secteurs qui sont les grands secteurs majeurs pour l'économie de demain.
Ben, c'est exactement ça. Donc quand on regarde finalement ce qui va reconfigurer l'économie mondiale du futur, on voit 18 domaines d'activité. Donc c'est pas tout à fait des secteurs, c'est des écosystèmes qui vont porter près d'un tiers de la croissance du PIB mondial. Ces secteurs, évidemment, intègrent tout ce qui va être lié à l'IA, à la technologie, à l'électrification, au biotech, et donc autres écosystèmes associés. Et on a essayé de regarder le poids, finalement, des Américains, des Chinois et des Européens dans cette grande concurrence internationale.
Et c'est bien là le problème, Clarisse, c'est ce que vous soulignez, c'est-à-dire que sur tous ces grands secteurs, aujourd'hui, c'est quand même largement la Chine et les États-Unis qui dominent. Je cite des chiffres parce que vos rapports sont remplis de chiffres passionnants. 90% du marché, 90% de la valeur boursière sont américains et chinois sur ces 18 secteurs.
Oui, alors, donc l'Europe est un peu reste un poids plume. Donc pour préciser ce que c'est que ces domaines d'activité, c'est des domaines qui ont une très forte croissance économique,
ouais,
et dans lesquels il y a une concurrence accrue. C'est-à-dire les parts de marché ne cessent de bouger. Donc c'est une concurrence exacerbée. Donc c'est le verre à moitié vide, c'est l'Europe est un poids plume, on ne joue pas vraiment à l'échelle dans ces catégories. Le verre à moitié plein, c'est que les positions ne sont pas définitives,
ouais,
et qu'on a un certain nombre d'atouts pour se battre.
Alors, c'est là où votre rapport est précieux, parce que vous dites, en fait, l'Europe, sur des segments très précis, finalement, elle a des forces qu'elle peut mettre à profit, et que si on veut, finalement, revenir à niveau des États-Unis et de la Chine, eh ben, il va falloir se muscler particulièrement sur ces segments sur lesquels on est fort aujourd'hui, et j'ai envie de dire arrêter de saupoudrer nos moyens et de disperser nos forces.
Oui. Alors déjà, sur ces 18 domaines, il y en a deux où on a quasiment la moitié du marché mondial. C'est la biotech non médicale, et c'est les médicaments anti-obésité, où on a 45 et 49% de parts de marché respectivement. Mais on est aussi, et c'est pas forcément intuitif, très fort en robotique, en construction modulaire, et on a des atouts importants dans tout ce qui va être l'industrie spatiale. Et la France spécifiquement, on a des points de force dans les nouvelles générations de production d'énergie nucléaire et aussi dans l'industrie spatiale. Et sur l'IA, où on se dit, bah pareil, c'est les modèles américains, la tech américaine, la tech chinoise, bah en fait, la France spécifiquement, c'est quand même le seul pays du G7 hors États-Unis et Chine, qui a une IA, une intelligence artificielle crédible grâce à Mistral. On est le pays européen qui concentre le plus d'investissements dans l'IA en Europe, et on est le cinquième dans le monde.
Et puis surtout, ça a été souligné ici à Aix-en-Provence, l'Europe et la France sont vraiment au top en matière d'informatique quantique. Or, l'informatique quantique, c'est peut-être pas l'IA, mais c'est toutes les capacités de calcul dont toutes ces industries auront besoin. Et ça, c'est aussi un sacré point fort.
Absolument. Et je pense qu'au-delà, on parle beaucoup de l'IA, un peu moins du quantique, et vous avez raison de le souligner. Et puis, on parle aussi, tout ça demande une électrification de l'économie. Donc, la partie production d'énergie est essentielle. Je pense qu'on a aussi en France le seul hub international d'envergure en Europe qui porte les sujets tech, c'est le plateau de Saclay, où on a des universités, des grandes écoles, des centres R&D, et donc une capacité aussi à développer des talents et à concentrer de l'investissement.
Alors, vous allez encore plus loin hein, dans les études que vous publiez à l'occasion de ces rencontres économiques d'Aix-en-Provence, parce que, ok, on l'a vu, 18 secteurs, qui vont être les 18 secteurs majeurs de l'économie de demain. Mais vous dites, dans chacun de ces secteurs, entre 0,2 et 5% des grandes entreprises réalisent 50 à 80% des gains de productivité de l'ensemble, finalement, de leurs homologues du secteur. C'est-à-dire qu'en gros, on a déjà les leviers de la prospérité de demain qui sont concentrés sur une petite vingtaine de secteurs et les leviers des gains de productivité dans ces secteurs, c'est entre les mains d'un nombre très restreint d'entreprises, finalement.
Alors, ce qui est assez fascinant, je trouve, quand on observe l'économie mondiale, on regarde les 10 plus grandes entreprises il y a 20 ans et les 10 plus grandes entreprises mondiales aujourd'hui. Donc déjà, première chose, il n'y en a plus une en commun, enfin il n'y en a qu'une en commun qui est Microsoft. Sinon, ce n'est pas du tout les mêmes entreprises. Les entreprises d'aujourd'hui ont une capitalisation boursière 8 fois supérieure à celle d'il y a 20 ans. Donc il y a une concentration très très forte de la création de richesses et de la capitalisation boursière. Ces entreprises, en plus, sont en train de s'étendre dans tous ces domaines-là. C'est-à-dire qu'elles, généralement, elles ont été créées dans un domaine. Aujourd'hui, en moyenne, elles interviennent dans 5 à 6 domaines qui sont des domaines prioritaires. Donc ça veut dire qu'elles concentrent par écosystème leur présence. Donc elles vont aller dans les logiciels d'IA, elles vont aller dans l'infrastructure cloud, elles vont aller potentiellement dans les véhicules électriques ou l'industrie spatiale. Donc en fait, ces mêmes entreprises se déploient dans ces secteurs d'avenir et porteurs de croissance.
Pour terminer, Clarisse Magnin, vous dites pour accélérer le rattrapage français et européen, il faut déployer 5 stratégies gagnantes. En quoi consistent ces stratégies ?
Déjà, il faut bien cartographier ces domaines parce que ce n'est pas des secteurs, justement. Ce n'est pas des secteurs d'activité, c'est des domaines d'activité, c'est des écosystèmes. Donc, on ne les traque pas bien avec nos données de statistiques parce que c'est par définition assez nouveau. La deuxième chose, il faut investir. Et là aussi, dans les choses positives, l'Europe investit moins, mais investit mieux. C'est-à-dire que généralement, quand on investit, on arrive à avoir un retour sur investissement meilleur que les Chinois et les Américains. Donc, ça veut dire qu'il faut continuer d'investir, il faudrait investir davantage, mais aussi le faire, évidemment, le plus intelligemment possible. Il faut choyer, je pense, nos ETI et nos PME, parce qu'elles sont, elles participent à ces écosystèmes et par irrigation, quelque part, elles sont associées à ces domaines d'activité de demain. Et puis, on a aussi nos grandes entreprises hein, qui sont porteuses de l'innovation et de la compétitivité et de la productivité de demain. Et là, en France particulièrement, on a des atouts pour jouer dans cette concurrence mondiale assez exacerbée.
Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos deux livres. Donc, Scénario pour le 21e siècle, vers le pire ou le meilleur. Allez, on va dire qu'il y a 60% chance que ce soit vers le meilleur. C'était avec Jean-Éric Aubert qui a co-dirigé cet ouvrage collectif publié aux éditions Hermann. Et puis, Clarisse Magnin qui est venue nous restituer les très riches travaux de McKinsey sur comment relancer finalement la compétitivité en Europe. On poursuit cette exploration des multiples pistes finalement à emprunter pour que l'Europe et la France retrouvent le chemin de la prospérité. Et cette fois-ci, c'est avec Nouaman Cherkaoui qui va nous parler de la souveraineté numérique notamment. On continue d'explorer les grandes opportunités et les grands leviers d'action que l'Europe, que la France pourrait actionner pour retrouver le chemin de la croissance et de la prospérité. Et s'il est un enjeu stratégique, c'est bien celui de la souveraineté numérique, notamment. Bonjour Noaman Cherkaoui.
Bonjour Emmanuel.
Noaman, vous êtes le directeur général adjoint de BPCE Services Informatiques. Et vous publiez « Sous l'emprise du code, comment le numérique menace la souveraineté des États ». C'est aux éditions de l'Éclaireur. Noaman Cherkaoui, vous partez d'un constat un peu désabusé, j'ai envie de dire. Le numérique a fabriqué une utopie d'un savoir mondialement partagé. Et en fait, il a surtout fabriqué de la domination, des barrières et des fragmentations.
Tout à fait, c'était une illusion qu'on s'est prise en direct et on était resté inconscient pendant des années depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis le plan Marshall. On est resté très dépendant des solutions technologiques américaines pour la simple raison c'est qu'on a rejeté les solutions technologiques chinoises, puisque les deux grands mastodontes technologiques dans le monde aujourd'hui, c'est la Chine et les États-Unis.
Alors, attendez, vous dites ça, mais en même temps, un des points, moi, qui m'a interpellé dans votre livre, c'est vous dites les lignes de fracture du numérique, en fait, elles ne recoupent pas totalement les lignes de fracture entre les grandes puissances. C'est plus compliqué que ça.
C'est plus compliqué que ça parce qu'il n'y a pas de frontières. C'est ça le sujet. Aujourd'hui, au numérique, il n'y a pas de frontières. On est resté sur un territoire qui est plutôt ouvert, avec une interopérabilité qui est celle qui était dictée par les grandes plateformes américaines. On n'a pas imposé quelque chose qui permettrait d'exister. Et quand on dit ligne de fracturation, c'est parce que globalement, certains pays sont restés dépendants. Quand je dis dépendants, totalement. On parle souvent d'Estonie comme un pays totalement numérique. Ouais. L'Estonie a mis toutes ses données sur AWS américaine. Le jour où qu'il switch, il n'y a plus d'Estonie. C'est ça ce que je dis aujourd'hui, une fracture totale qui permettrait d'être dépendant totalement d'un acteur unique.
Mais qui doit prendre en compte? Qui doit s'emparer de cette question de la souveraineté numérique?
Alors, c'est une très
est-ce que
bonne
c'est
question.
Les États? Est-ce que ouais. c'est est-ce que c'est le est-ce que c'est le l'Europe? Est-ce que c'est la justice? Enfin, est-ce que c'est la norme, la règle, la loi, les politiques?
Alors, c'est vrai que c'est une question qui s'est posée tout le temps. Aux États-Unis aujourd'hui, c'est l'État et le secteur privé. En Chine, c'est l'État. Moi, je considère qu'en Europe, si on veut retrouver notre souveraineté, il faut que l'État s'en mêle. Il faut que la politique on fait un axe stratégique de dépendance ou d'indépendance. Aujourd'hui, l'État il a laissé le privé un petit peu dans un sort de dépendance totale technologique. Quand on regarde les Américains, depuis 1958, ils ont créé la DARPA, que vous connaissez. La DARPA, elle a financé tout ce qui est industrie critique. Elle l'a financé à perte. C'est comme ça qu'on a eu Internet. C'est comme ça qu'on a eu le GPS. Et aujourd'hui, si on n'a pas l'État qui met la main à la pâte pour aider les entreprises justement à retrouver cette souveraineté, eh bien, dans les 10, 15 ans, 20 ans à venir, on va continuer à vivre ce qu'on vit aujourd'hui.
Alors, vous soulignez aussi un point très important, parce qu'encore une fois, vraiment, il ne faut pas se tromper de combat. Vous dites, la souveraineté et la capacité à être maître de données, etc., ça ne veut pas dire l'autonomie totale. Il y a des interdépendances quand même qu'on peut maintenir tout en gardant notre souveraineté.
Alors, vous avez tout à fait raison. En fait, aujourd'hui, on entend un discours un peu vide de sens qui s'appelle souveraineté totale. Il est impossible. On est dans un monde mondialisé dans lequel aujourd'hui, on a pris du retard. Et aujourd'hui, cibler une indépendance totale serait forcément illusoire pour deux raisons essentielles. C'est que, globalement, on est dans une dépendance critique sur les matériaux rares, sur les satellites, sur les câbles sous-marins, sur le digital dans sa globalité. Et si on veut être indépendant, il faut choisir des axes pour lesquels on peut être à la table de négociation. Je m'explique, aujourd'hui l'Europe, c'est un grand continent qui s'est construit à partir de la Deuxième Guerre mondiale pour un marché. Et un marché européen, c'était pas une puissance. Et si on veut exister aujourd'hui, il faut choisir des axes pour lesquels on peut mettre tous les moyens pour devenir indépendant. Je parle par exemple du quantique. Le quantique, on est encore en début de l'histoire. Si aujourd'hui on met pas les capacités européennes au sens où on met comme un actif stratégique, on va arriver dans quelques années, on va être dépassé encore par les Chinois, par les Américains.
J'étais étonné aussi, vous déployez 4 scénarios pour le web en 2035 et vous voulez quand même attirer notre attention sur la fragilité finalement de cette infrastructure qui est le web, qui est une infrastructure physique dont la solidité ne va pas de soi.
Effectivement, moi le premier, en fait, on croyait tous que Internet c'était universel. ça ne l'est pas aujourd'hui, ce qu'on appelle le splitternet. Aujourd'hui, quand on est en Chine, quand on est au Maroc, ou quand on est aux États-Unis ou quand on est en Espagne, on n'a pas accès au même Internet. Cet Internet-là, qu'on a considéré comme étant un actif ouvert à tout le monde, ne l'est pas aujourd'hui. Il est vraiment fragmenté. Cette fragmentation oriente beaucoup de choses. D'abord, la conception qu'on a de certains sujets. Un sujet comme le social en France n'a pas la même vision que le social en Italie, que le social en Australie. Et cette vision-là d'Internet universel, elle est fausse. Elle est fausse et il faut s'en emparer pour qu'on crée cet Internet européen ou mondial qui permettrait de maîtriser un peu ce qui circule comme données. Dans quelques années, il n'y aura plus d'Internet comme on le voit aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on est un peu imbibé par l'IA. On dit que le grand Internet encore propre, c'est celui de 2021. Parce qu'aujourd'hui, le contenu de l'Internet est commencé un petit peu très comporté par un certain nombre de productions de l'IA en direct.
Pour terminer, Nouaman Cherkaoui, vous proposez aussi, puisque c'est le fil rouge de notre émission, 5 leviers pour défendre la démocratie à l'heure où on voit que les régimes autoritaires prospèrent, que les cyberguerres prospèrent. Qu'est-ce qu'on fait pour défendre ce qui est le cœur de notre identité européenne finalement ?
Aujourd'hui, c'est l'algorithmique, on va le dire. Aujourd'hui, un certain nombre d'algorithmes, ils sont en train de circuler partout, dans les réseaux sociaux, dans les informations. Et il faut qu'on maîtrise tout ce qui est algorithmique, parce que l'algorithme, c'est les données, et les données, on doit les produire. Et aujourd'hui, on subit un certain nombre d'outils dont les données ne sont pas maîtrisées, dont les règles d'algorithmique ne sont pas connues. Et dans une démocratie, il faut qu'on soit clair, qu'on soit transparent sur ce qui gouverne, à la fois le subconscient, à la fois ce qui apparaît sur les réseaux sociaux et ce qui détermine notre souveraineté qui est demain celle de nos citoyens.
Merci Nouaman Cherkaoui. Je rappelle votre livre « Sous l'emprise du code ». Comment le numérique menace la souveraineté des États ? C'est aux éditions de l'Éclaireur. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho, spéciale rencontre économique, spéciale solution pour redresser la France, retrouver le chemin de la croissance, de la productivité, de la prospérité. Et moi, je suis quand même assez stupéfait de toutes les marges de manœuvre qu'il y a. Hein. On va le voir encore avec nos deux invités. Thierry Blandinière, bonjour.
Bonjour.
Thierry, vous êtes le directeur général de InVivo, la multinationale agricole et agroalimentaire, et vous publiez Nourrir aux éditions du Cherche Midi. Je rappelle que vous êtes le président aussi du CA Brive.
Ben oui, il faut le dire aussi. Voilà.
Voilà, bien
voilà,
sûr.
C'est important.
Et c'est très
important. Le lien au terroir, au territoire.
Oui. Et Jean-Hervé Lorenzi, notre hôte, le président du Cercle des économistes, qui publie avec Alain Villemeur « Guerre et paix entre profit et salaire » chez Odile Jacob, avec là aussi des propositions. On va commencer avec Thierry, Jean-Hervé Lorenzi, mais quand même, moi je suis interpellé en préparant cette émission, en écoutant la première journée des rencontres économiques. On n'arrête pas de nous dire que face aux défis de l'avenir, l'Europe a du retard, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de marge de manœuvre. En fait, depuis deux jours, entre les auteurs invités dans la librairie et les débats ici, plus ça va, plus les heures passent, plus on se dit mais il y a des tas de pistes à explorer finalement pour retrouver le chemin de la prospérité.
Vous êtes en train de parfaitement décrire l'ambition qu'on s'est fixée. On va terminer sur l'idée du progrès.
Ouais.
Le progrès ne nous est pas du tout interdit en France et en Europe, mais parlons d'abord de la France. On ne nous est pas du tout interdit. Nous sommes convaincus que pour peu, on va en parler tout à l'heure, mais qu'on relance par exemple la jeunesse, donc il faut booster. Le discours hier à la fois de Philippe Aguillon et du Premier ministre Cornu, franchement on avait l'impression qu'on pouvait y aller.
Alors, s'il y a bien un sujet sur lequel, Thierry Blandinière, il ne faut pas se laisser gagner par le défaitisme, c'est le sujet de la compétitivité de notre agriculture, de notre souveraineté alimentaire. Parce que, franchement, on peut se dire, quand on voit les tendances actuelles sur notre solde extérieur agroalimentaire qui est quand même déficitaire, ce qui n'était jamais arrivé, on se dit, mais finalement, est-ce qu'après la désindustrialisation, nous ne sommes pas guettés par ce qu'on pourrait appeler la désagriculturisation?
C'est exactement l'objet de mon livre. Je crois qu'on est dans un moment charnière dans l'agriculture, un moment de bascule. On est encore très, très fort sur nos fondamentaux dans l'agriculture, mais il faut arrêter de la déstructurer. Donc il faut trouver une troisième voie qui fasse une agriculture durable, productive, compétitive, où on puisse augmenter bien sûr nos parts de marché à l'exportation, réconcilier aussi le citoyen avec l'agriculteur dans les territoires. Et c'est maintenant qu'il faut le faire, puisque ça a été dit, en 2025, pour la première fois, notre balance commerciale alimentaire est en déficit. Donc il faut absolument maintenant prendre conscience de la situation, prendre conscience de nos forces, comprendre que le monde est en train de changer, que l'enjeu de la souveraineté alimentaire est essentiel, se nourrir c'est essentiel, comme l'énergie, vous avez deux grands piliers aujourd'hui, souveraineté sur l'énergie et sur l'alimentation. Et dans le monde qui se fragmente aujourd'hui, il faut que la force de la ferme France se révèle son potentiel.
Mais vous jugez qu'elle est dans quel état aujourd'hui, cette ferme France ?
Elle est entre les deux, c'est-à-dire qu'elle est en difficulté économique parce qu'elle a besoin de se réformer, de se transformer, de se moderniser, et elle est sous la pression du monde environnemental qui est très exacerbé en France. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite faire aujourd'hui, nous, InVivo, et dans le bouquin que j'essaye d'écrire, c'est qu'il y a une troisième voie de réconciliation possible. De sortir des postures politiciennes court-termistes entre un syndicalisme forcément qui défend et qui fait son job, qui défend le revenu de l'agriculteur, et des ONG qui se font une miel politique pour exister de l'agriculture. Et je fais un peu le parallèle avec le nucléaire. Regardez le changement de pied qu'il y a eu sur le nucléaire. Le nucléaire, il fallait l'arrêter, c'était foutu, on allait tuer la planète avec ça. Et du coup, même les écolos allemands sont revenus en arrière et il y a un consensus maintenant positif sur le nucléaire. Et j'appelle à un consensus positif maintenant sur notre alimentation, notre agriculture, qui est la plus vertueuse au monde aujourd'hui.
Quel est le principal handicap français ? On a l'impression que on n'est pas capable, en France, d'imaginer pouvoir concilier, finalement, une agriculture de qualité, écologique, compétitive, et qui produit en grande quantité.
C'est l'équation difficile à régler, mais c'est possible aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup d'innovations dans l'agriculture. Il y a un changement de modèle. Il faut aller vers une agriculture moins spécialisée, plus ouverte, plus diversifiée, avec un schéma de rotation de culture, de s'occuper de la qualité des sols, qui est aussi le patrimoine de l'agriculteur. La qualité des sols, c'est important pour lui, la biodiversité, et en même temps être productif. Donc c'est possible, on peut rentrer dans un nouveau modèle économique, mais il faut engager l'agriculteur, lui donner confiance. Pour l'engager, il faut créer un filet de sécurité sur ses revenus. Donc de reconvertir des fermes en agriculture régénératrice, c'est le mot. Ça a un prix.
Attendez, là c'est un concept important. C'est quoi cette agriculture régénératrice ?
C'est un schéma de rotation de culture, en fait. Au lieu d'être tout céréales, on arrive sur 5 ans à avoir un schéma de rotation de culture avec des légumineuses, avec du colza, avec des pommes de terre et pas faire que du blé, de manière à travailler la qualité des sols, avec des paillages, etc. Et donc du coup, on enrichit la qualité des sols, donc on devient vertueux et l'agriculture devient, en ce cas, une solution au réchauffement climatique et plus un problème. Ça permet d'être un puits de carbone, de capter des carbones au sol. Et à partir de là, on peut créer un cercle vertueux. Pour ça, il faut que l'agriculteur change sa méthode, en fait. Et donc, quelque part, on doit travailler à sécuriser le financement du risque du changement de méthode.
Quel est le modèle d'avenir, finalement, pour la ferme France ? C'est quoi le bon modèle économique pour les agriculteurs aujourd'hui ?
Le bon modèle, c'est s'engager dans cette nouvelle agriculture durable, compétitive, et de travailler sur un schéma de contractualisation avec les metteurs en marché pour rassurer leurs revenus. Contractualisation dans le temps et sur différentes cultures, de manière à ce qu'ils soient sécurisés en disant « je m'engage, mais en face, j'ai un client, j'ai un prix, j'ai un revenu ». Donc j'appelle les acteurs de la filière, je ne parle pas de la grande distribution, je parle des sociétés agroalimentaires, première transformation, deuxième transformation, à travailler le schéma de contractualisation avec l'agriculteur.
La coopérative, parce que vous n'avez pas prononcé le mot encore jusqu'à...
Ça arrive.
Jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est un modèle d'avenir et est-ce que c'est un modèle généralisable ?
C'est un modèle déjà qui est leader en France, donc oui. Incontournable. 80% des flux passent par une coopérative. Donc c'est l'enjeu des coopératives aussi qui doivent repenser leur modèle pour être encore plus compétitifs. Ça va naturellement, on peut lâcher le mot, vers une centralisation, une concentration, une fusion des acteurs de manière à travailler la compétitivité. Donc il ne faut pas se leurrer. Demain, on aura peut-être moins d'agriculteurs avec plus de grandes fermes et plus d'un grand groupe coopératif. Mais ça, c'est une réponse à la compétitivité.
L'objectif, vous dites, ça doit être la souveraineté et ça doit être la sécurité alimentaire.
Oui.
Mais attention, ça ne veut pas dire pour autant le repli sur soi.
Ah non.
Ça ne veut pas dire ne pas avoir d'échange. C'est quoi ce bon modèle ?
Alors pour moi, la souveraineté d'abord, elle est plus au niveau européen. On a une politique européenne historique dans l'agriculture avec la PAC. Il faut absolument la moderniser, mais la préserver. Il faut qu'on ait une politique européenne. Je suis contre le fait de relocaliser la PAC. Ça, c'est très dangereux parce qu'on va recréer de la compétition qui sera sûrement déloyale entre les pays de l'Europe. Donc, ayons une politique européenne robuste, solide, compétitive. Donnons des aides pour inciter les agriculteurs à transformer leur modèle. Et soyons aussi exportateurs. Je rappelle qu'Invivo, on exporte la moitié des grains français dans le monde. Et la souveraineté, ça s'exporte aussi. Et c'est notre rayonnement économique qui est important à destination des pays, par exemple en Afrique, des pays qui n'ont pas le luxe de pouvoir produire des céréales. Donc ne soyons pas égoïstes, sachons aussi exporter notre savoir-faire. Nous sommes attendus mondialement. La qualité France est attendue mondialement. Donc répondons à ces attentes.
Est-ce que les agriculteurs français sont victimes d'une concurrence déloyale aujourd'hui ?
Ils le sont en Europe déjà par une surtransposition des normes.
Ouais.
Alors c'est très sensible, mais c'est un enjeu essentiel. On ne peut pas avoir dans la vitesse de transition différentes vitesses entre les pays parce que du coup vous avez par exemple l'Allemagne qui est plus compétitive pour le moment que la France parce qu'elle a gardé des normes enseignes et elle a gagné du temps. Et donc il y a un enjeu de politique européenne et d'application. Ouais.
La bonne nouvelle, Thierry, c'est que c'est nous qui sommes nous-mêmes responsables de nos mots. Là,
exactement, mais je ne voulais pas le dire, vous l'avez compris. Donc, quelque part, arrêtons de rajouter des normes aux normes, mais ça, c'est un vaste sujet en France. Il n'y a peut-être pas que dans l'agriculture, mais c'est un frein à la compétitivité très important.
Sur le climat, vous dites, il n'y a aucun doute, l'agriculture fait partie de la solution et pas du problème.
Notamment la partie végétale, parce que finalement, les cultures végétales peuvent capter du carbone donc au sol. Donc, quelque part, contribuent à lutter contre le réchauffement climatique. Et ça, ce n'est pas assez construit aujourd'hui parce qu'on est sur une culture éphémère. Autant la forêt, toutes les cultures pérennes, c'est facile. Mais il faut qu'on arrive à requalifier ces rotations de culture et cette culture végétale qui est certes éphémère, mais qui ponctuellement contribue à lutter contre le réchauffement climatique.
L'agriculture française en 2050, vous la voyez comment ?
Ben, je la vois plutôt rayonnante si aujourd'hui on prend des décisions. On a sorti une étude 2050 avec Robust, avec les instituts, qui montre les impacts du réchauffement climatique dans certaines régions en France, les impacts environnementaux. Et face à ça, on a proposé des solutions. Il y a des enjeux et on a chiffré aussi le coût de l'inaction par rapport au coût de l'action. Le coût de l'inaction aujourd'hui, c'est 30 milliards. Le coût de l'action, si on agit maintenant, c'est 12 milliards. Alors, je pourrais développer tout ça, c'est un peu long, mais tout ça, c'est robuste et on s'appuie sur cette étude, et j'espère que le futur gouvernement prendra en compte cette étude, pour transformer la ferme France.
Mais Thierry Blandinière, pour terminer, vous dites qu'il faut faire un Airbus de l'agriculture en Europe, mais on a déjà la PAC.
Mais la PAC, ce n'est pas une entreprise. Un Airbus, c'est une entreprise. Il y a une différence.
Bah,
il y a des politiques publiques, on a la PAC, mais en politique privée, on doit faire émerger des champions européens comme ça existe dans de nombreuses industries. Et l'Allemagne a aussi un nombre d'acteurs dans le domaine céréal. Et moi, je plaide un rapprochement d'Invivo avec d'autres groupes coopératifs allemands pour créer un groupe agricole à l'échelle. Donc un Airbus, quelque part, de l'agriculture.
Merci beaucoup, Thierry Blandinière. Dans tous ces leviers qu'on peut actionner pour remettre l'Europe et la France, bien sûr, sur le chemin de la prospérité, il y en a un qui est trop souvent négligé et qui est pourtant crucial, Jean-Hervé Lorenzi, c'est le levier, finalement, de la répartition et de la fiscalité. C'est l'objet de votre dernier livre avec Alain Villemeur, « Guerre et paix entre profit et salaire ». Vous dites, Jean-Hervé Lorenzi, finalement, allez, on a vécu une espèce d'âge d'or au XXe siècle avec les grands équilibres issus du fordisme, le ruissellement, l'émergence de classes moyennes prospères. Il faut renouer avec ce modèle qui était un modèle de calme social. Par quoi on commence ? Quel est le chemin à parcourir pour retrouver cette prospérité ?
Première chose, je me colle un peu dans la logique de ce que vient de dire Thierry et de ce que vous avez dit. Il faut traiter, on peut traiter ces problèmes de fiscalité, puisque ça se termine par la fiscalité, de manière rationnelle. Après, il y a des différences de position. Mais c'est pas le jour et la nuit, on peut en parler normalement, avec de la méthode. Donc nous, un, on a fait avec Alain une modélisation, mais qui a été très très, au fond validée par le regard sur notamment les États-Unis, pour savoir comment il faut répartir. Ouais. Les revenus du travail du capital, et c'est vrai qu'on arrive à 2/3, 1/3.
C'est une évaluation académique,
Académique. Absolument. Mais quand on prend les États-Unis, jusqu'en 2000, ils ont une croissance qui est la meilleure du monde pendant un siècle, et c'est pas compliqué, ils sont 2/3, 1/3. Il faut.
2/3 pour les salaires, 1/3 pour les profits.
Et l'idée, la bonne illustration, c'était Ford qui disait « Mes ouvriers, c'est mes clients, il faut que vous ayez de quoi investir, mais donc c'est des profits. Mais les profits, ils ne s'investissent que s'ils ont le sentiment qu'il y a une demande.
Et oui.
La demande, il faut qu'elle soit suffisante. » Tout ça a l'air évident et c'est le problème le plus compliqué de la théorie économique depuis, on va dire, 2 siècles, avec le Ricardo en pop star, c'est Ricardo qui a vraiment posé le problème. Comment est-ce qu'on arrive à faire fonctionner sur une longue période une économie en croissance par un bon équilibre de la répartition de la richesse?
Bah, dans votre livre, vous proposez de réconcilier Keynes et Schumpeter. C'est pas si mal.
Alors, ça veut dire offre et demande. Il faut, pour résumer, moi j'adore parce que tout politique français qui prend la parole, passe de Schumpeter et de la destruction créatrice. Mmh. Ce sont deux mots, à mon avis, qui sont les deux seuls mots qu'ils connaissent, qui sont lus de Schumpeter.
Parce que vous connaissez beaucoup de gens qui parlent de Keynes et qui l'ont vraiment lu, Jean-Hervé Lorenzi.
Très peu de gens. Donc, Schumpeter et de l'autre côté, Keynes. Après, quand on a ces 2/3, 1/3, la démarche, c'est qu'est-ce qui permet de s'en rapprocher.
Il ouais.
n'y a pas de miracle, il n'y a pas de choses évidentes dans la vie. La fiscalité est, j'allais dire, un très bon moyen. D'où l'idée qu'on a faite, qu'on a développée avec Alain. Ça consistait à prendre le budget, enfin le niveau de prélèvement d'aujourd'hui, mais c'est aussi valable si on baisse, et on l'a réparti de manière à ce qu'on se rapproche des 2/3, 1/3. Honnêtement, c'est normal que je le dise, mais c'est très bien fait.
Alors,
je suis obligé de reconnaître que c'est très bien fait.
Alors, justement.
Attendez. Après, quand j'ai réparti les salaires et les revenus du travail ouais. du capital, j'ai quand même un problème qui est compliqué. Il faut que les revenus du capital s'investissent. Or, on est un pays de vieux. Ça a été très bien dit par Le Cornu hier. Donc, les vieux, ils ont horreur du risque. Donc, pour qu'ils investissent dans l'IA, c'est pas leur truc naturel. Si moi, on me propose d'investir dans une start-up qui donnera des résultats dans 20 ans, je dis, c'est vachement sympa, mais je suis pas sûr de le faire tout de suite. Donc, on a un troisième sujet qui est d'arriver à garantir le fait que les revenus du capital, le modèle, c'est le capitalisme du 19e siècle, celui de Weber. Le but, c'est le profit, il est destiné à investir pour l'avenir. Et les salaires, il faut qu'ils soient suffisants pour pouvoir donner envie d'investir. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce
Alors,
livre, que je ne qualifie pas de très bon, mais j'en pense pas moi.
Alors, Jean-Hervé, vous posez dans ce livre 8 grands principes de politique fiscale. Est-ce que vous pouvez nous résumer finalement la philosophie globale de cette nouvelle fiscalité?
Oui, alors après, moi je détiens, je ne suis pas sûr que la discussion ne soit pas naturelle. Il se trouve que les principes sont assez justes. Ils reviennent en fait à dire que, ce n'est pas très compliqué, les bas salaires dans notre pays sont trop faibles. C'est une réalité. Et ils sont perçus, à cause du net et du brut, la différence entre le net et le brut, ils sont perçus comme encore plus faibles qu'ils ne le sont. Et donc, première idée, première illustration, la CSG, elle est la même que vous gagnez 1500 euros ou vous gagnez 40 000 euros par mois. Donc, qu'est-ce que je fais? Je la rends progressive. Il n'y a pas besoin d'un génie pour se dire que, honnêtement, la CSG, c'est essentiellement destiné à la santé. Donc, premier aspect. Deuxième aspect, les entreprises payent trop de charges sociales. Vous vous souvenez qu'il y a un grand débat sur les impôts de production. Toutes les études du CAE montrent que la baisse des impôts de production, ça ne change pas grand-chose. En revanche, si on fait, comme nous le disons dans le livre, 30 milliards de moins de charges sociales, je peux vous garantir que ça va booster les PME, les TPE, etc. Troisième sujet, je vais au fond essayer de lutter contre la perception que les classes moyennes ont d'être des exclus de la société. C'est une des raisons des formes de populisme. Donc je baisse leurs impôts. Alors maintenant, il faut savoir comment je paye tout ça. Parce que j'équilibre absolument l'opération. Je l'équilibre. Alors je l'équilibre de la manière assez suivante. Une qui est à la fois joyeuse et triste, c'est le vieillissement. Le vieillissement, comme on l'a vu, ça entraîne en réalité des décès, beaucoup de décès.
Ouais. Et plus de transmission.
Donc. Et donc beaucoup de transmission. Alors, ce matin, ça a été dit de manière très astucieuse, il faut arriver à transmettre, non pas à la génération de 60 ans, mais à la génération de 30 ans, si on veut que ce soit efficace. Je rajoute un peu, ça c'est un des paradoxes français, je rajoute le fait que 90% des Français ne payent pas un centime sur leur héritage, mais 90% oui. des mêmes Français oui. sont contre l'idée qu'il y ait une modification des taux de l'affaire. Donc, on est dans ces paradoxes qui me font...
Donc, vous taxez plus l'héritage.
Je taxe un peu plus l'héritage. Et surtout, dernier aspect, un donnant-donnant. On a un énorme problème de logement et de bureaux, mais de logement en France. Qu'est-ce que je fais ? Je taxe aujourd'hui, avec tout le truc, avec l'impôt sur le foncier, enfin, etc. Je taxe le mètre carré de logement. C'est idiot, parce que ce qui a pris de la valeur en 30 ans, c'est le mètre carré, la terre.
Au sol.
Ces trucs. Donc je dis, j'augmente un peu leur tarification, et je leur permets de densifier, qui est quand même, en réalité, le moyen de résoudre pour partie les problèmes de construction de logement. Vous savez que cette année... en dépit de ce qui a été dit hier soir, on est le champion de l'année 2026, c'est l'année championne de la faiblesse du nombre de logements créés, notamment pour les jeunes. Donc, alors tout ça est discutable. Il y a une logique qui est forte. Et dernier aspect, là, je mets mon gilet pare-balles, je retransfère une partie du financement. De la part des retraités aisés, dont je fais partie, vers la jeunesse. C'est une évidence, je fais un transfert. Alors, pourquoi je mets un gilet pare-balles ? Parce que vous vous souvenez que la décision la plus stupide du budget 2026, c'est celle qui a maintenu l'abattement à 10% de 10%, une intelligence absolue, et en même temps, on a baissé le montant des subventions à l'apprentissage. C'est vraiment...
On va bientôt avoir un budget 2027, je pense qu'on va en reparler, Jean-Hervé.
Voilà, j'espère qu'on va en reparler, donc je transfère de l'argent, mais il faut arriver à le transférer vers les jeunes et prendre, je ne dis pas tout, j'ai une femme qui va, sinon on va m'assassiner, mais on peut un peu prélever un peu, et notamment ce qui va coûter très cher, c'est la dépendance et l'idée que les retraités participent de manière un peu plus forte à la dépendance, que ce ne soit pas uniquement l'ensemble de la population, donc les jeunes, dont les jeunes, je crois que c'est une bonne solution. Voilà l'équilibre général.
Merci beaucoup à tous les deux. Thierry Blandinière, Nourrir les raisons d'espérer pour l'agriculture française, c'est aux éditions Le Cherche Midi. Jean-Hervé Lorenzi, Alain Villemeur, Guerre et Paix entre profit et salaire pour une révolution fiscale. Odile Jacob, c'est la fin de cette librairie de l'écho au cours de laquelle nous avons évoqué quand même un nombre de pistes de redressement de l'économie française absolument considérable. J'espère que toutes feront partie de tous les débats que nous aurons dans l'année qui vient à l'aube de la prochaine élection présidentielle. Et finalement, tout ça rend très optimiste. Oui, il y a beaucoup de solutions. Et moi, ce qui me frappe, c'est que c'est des solutions qui ne demandent pas autant de sacrifices qu'on pourrait le croire. Voilà, juste retour à la volonté de vivre mieux tous ensemble. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière librairie de la saison. Ce sera notre librairie de l'été avec tous les conseils de lecture pour vos vacances et pour effectuer une très belle rentrée. D'ici la semaine prochaine, bonne lecture.